Voilà, bonjour à tous. Vous écoutez la Voix de l'Amérique ici à Washington. Nos toutes dernières informations en Tunisie, une trentaine d'associations, dont le plus grand syndicat du pays, l'UGTT, ont appelé donc...
C'est le genre d'opération auquel se livrent des organisations terroristes comme Al-Qaïda ou l'État islamique. Et on sait que depuis un certain temps, les autorités tunisiennes avaient procédé à des démantèlements fréquents de cellules terroristes qui préparaient des attentats en Tunisie. Ils avaient aussi découvert des caches d'armes. Donc il y avait une pression sécuritaire sur la Tunisie qui était extrêmement importante et palpable. Et cette pression sécuritaire vient toujours du chaos libyen. On sait qu'il y a des organisations terroristes très actives en Libye et qui ont promis de commettre des attentats en Tunisie. Et donc ils ont réussi à tuer des gens et surtout à s'attaquer à des symboles dans un contexte politique extrêmement important pour la Tunisie.
Que pouvez-vous nous dire sur le contexte politique actuel ?
D'abord, la Tunisie est un des rares pays du printemps arabe qui a réussi relativement une douce et démocratique transition qui a été saluée par beaucoup de pays dont les États-Unis et l'Union européenne. Donc il y a une jeune démocratie qui était en train de naître et de grandir. Donc il faut dire qu'un certain nombre d'organisations terroristes n'ont aucun intérêt à ce que ce genre d'expérience puisse voir le jour sur le territoire arabe. Le deuxième message, c'est de voir aussi à quel point la Tunisie voisine est impactée par la situation en Libye. Tant qu'on n'a pas réussi à trouver une solution sécuritaire à ce qui se passe en Libye, on aura forcément des impacts de ce chaos sur les pays voisins. Et je considère que cette opération terroriste, parce qu'elle vise un lieu touristique à côté d'un lieu politique symbolique qui est le Parlement, fait partie de ces démarches et de ces entreprises de terreur qu'exportent des organisations comme l'État islamique ou Al-Qaïda. Troisième élément qui est très important, il ne faut pas oublier que cette opération terroriste intervient à la veille d'un projet de réconciliation nationale que le nouveau président de la République, Bachir Kaïd Sebsi, allait proposer aux Tunisiens. On peut envisager que cet attentat-là a pour but aussi d'empêcher la réconciliation et la stabilisation et la pacification des esprits en Tunisie.
Voilà, comme je le disais, c'était le journaliste et politologue Mustapha Tossa. Il s'exprimait sur la situation en Tunisie où une trentaine d'associations, dont le plus grand syndicat du pays, l'UGTT, appelle à un rassemblement silencieux cet après-midi près du musée du Bardo à Tunis, où une attaque par des hommes armés non identifiés a fait 21 morts hier, 17 touristes, 2 membres des forces de sécurité et 2 assaillants. L'objectif de la manifestation, souligner l'unité nationale de la Tunisie dans la lutte contre le tourisme. Et ajoutons que le musée sera ouvert aux visiteurs de manière normale dès le mardi prochain. Donc, c'est ce que déclare la ministre tunisienne de la Culture, Latifa Lakhdar. Direction le Mali, après avoir tué un suspect de l'attentat de Bamako, le 12 mars dernier, la police malienne a arrêté ce mercredi 8 mars 2 complices. Plus de précisions avec Kassim Traoré.
La DGC malienne a arrêté ce mercredi 18 mars 2015 2 complices. Le premier est un boutiquier et le second travaille dans une compagnie de transport à Bamako. Tous les 2 ont été arrêtés dans le quartier Mayamougou. C'est grâce aux informations que le service de renseignement a trouvées dans la chambre du terroriste Thié qu'elle a mené certaines investigations qui ont abouti à l'arrestation de 2 personnes. La première personne arrêtée s'appelle Boubacar Adama Traoré. Son arrestation a eu lieu dans une compagnie de transport où il travaille. Ensuite, il y a eu son audition et une perquisition dans sa chambre à Mayamougou. Les éléments de la sécurité d'État ont trouvé chez lui la somme de 2 300 000 francs CFA, des puces de téléphone et d'autres documents. Le second complice est Mauloud. Il est boutiquier à Mayamougou. C'est lui qui avait commandé les billets des terroristes. Il a logé aussi Mohamed Tanuro Cissé, qui a été neutralisé par le service de renseignement malien il y a une semaine. Mauloud avait transformé la toiture de sa boutique en cache d'armes. Il logeait aussi beaucoup de terroristes en transit à Bamako. Avec l'arrestation de ces 2 personnes, la DGC malienne espère mettre la main très bientôt sur les 2 terroristes qui ont commis l'attentat de Bamako. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Et puis, concernant les négociations intermaliennes, ajoutons que le gouvernement et la médiation internationale ont écarté hier toute discussion du contenu de l'accord de paix d'Alger, appelant de nouveau le mouvement rebelle du nord du pays à le paraffer en l'état. Le Niger est au premier plan de la lutte contre le terrorisme dans le Sahel, en témoigne sa campagne contre le groupe islamiste nigérian Boko Haram et sa contribution aux efforts pour stopper l'afflux des armes au Mali voisin, d'où une forte coopération militaire entre Niamey et Washington. En quoi consiste l'assistance des États-Unis? La réponse du ministre nigérien de la Défense, Mahamudu Karidjo, au micro de notre envoyé spécial à Niamey, Idriss Fall.
Beaucoup de renseignements que nous partageons avec les États-Unis d'Amérique. Beaucoup d'interventions au niveau de la formation de nos hommes. Nous avons des forces expéditionnaires, des forces spéciales qui ont été formées par les forces armées américaines. Nous avons beaucoup de matériel qui ont été donnés par le gouvernement des États-Unis d'Amérique. Je dirais que la coopération entre les forces armées américaines et les forces armées nigériennes est très fructueuse et c'est des partenaires stratégiques qui, sur le terrain, nous aident par le renseignement et la formation. Ils n'interviennent pas au combat, au sol avec nous, mais en tout cas, ils nous donnent assez de renseignements pour nous permettre d'anticiper et d'accomplir nos missions avec le minimum de risques.
Les drones américains sont toujours présents, déployés ici, et il y en a combien?
Je souhaiterais ne pas vous dire combien il y en a, mais ils sont là quand même.
VOA Afrique, en direct de Washington.
Voilà, cette dissension politique en Guinée, l'opposition suspend sa participation au Parlement et à la commission électorale pour marquer son désaccord avec le calendrier électoral actuel. Le point avec Nicolas Pinot.
Cette décision est symbolique puisque l'Assemblée guinéenne ne siégera pas avant le mois prochain. Sélou d'Alain Diallo, Sidya Touré et Lansana Kouyaté, les trois grands leaders de l'opposition, doivent se retrouver ce week-end à Paris pour faire le point. Ils se sont déjà mis d'accord pour que les 49 députés de l'opposition se retirent de l'Assemblée nationale jusqu'à nouvel ordre. L'opposition décide aussi de ne plus reconnaître l'autorité de la CENI. Par ce geste, les opposants guinéens espèrent se faire entendre pour que les élections locales aient lieu avant le scrutin présidentiel. Dans le calendrier actuel, la Commission nationale électorale indépendante prévoit d'organiser le scrutin présidentiel le 11 octobre et les élections communales en 2016. Depuis l'élection d'Alpha Condé à la tête de la Guinée, les relations entre opposition et pouvoir guinéen sont exécrables et beaucoup redoutent de nouvelles violences lors de la présidentielle.
Voilà, c'était Nicolas Pinot. Il faut souligner qu'au Tchad, l'UNET, l'Union nationale des étudiants tchadiens, maintient son mot d'ordre de grève illimitée des cours pour protester contre les violences liées à l'imposition du casque aux motocyclistes qui ont coûté la vie à un étudiant. En dépit des concertations avec les autorités, y compris le président Idriss Déby lui-même, l'UNET estime que ses revendications n'ont pas encore été satisfaites. Nadjo Kaina, leader de l'UNET, au micro de Timothée Donangmaya.
Le bureau national de l'UNET avait posé comme première condition le départ sans condition du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique. On a mis sur pied une enquête spéciale où l'UNET sera parti, c'est-à-dire devant la justice les coupables et la suivi des blessés. Et je crois que quelques points ont été abordés par le chef de l'État. Et comme nous l'avons dit, nous allons faire un travail avec les étudiants à la base. Nous allons voir quelles sont les avancées. Et c'est ainsi que nous allons voir dans quelle mesure nous allons répondre avec le cours.
Voilà, c'était donc Nadjo Kaina, président de l'Union nationale des étudiants tchadiens. Et puis en Côte d'Ivoire, il faut noter cette conférence internationale sur l'émergence de l'Afrique qui s'est ouverte hier à Abidjan. Il s'agira pour les dirigeants africains et les experts des institutions financières d'étudier les mécanismes à mettre en pratique pour atteindre l'émergence à laquelle beaucoup de pays du continent aspirent. Voici à cet effet ce reportage de Germain Ndré.
Environ 40 pays invités avec près de 300 experts de haut niveau vont à travers des panels et conférences évaluer les conditions de l'émergence, améliorer leurs politiques et stratégies par rapport aux leçons apprises et saisir les opportunités nouvelles pour le bien-être des populations. Dès l'entame des échanges, Riyad Medim, conseiller économique principal pour le développement du Comore, a affirmé qu'il attend beaucoup des autres.
Ce qu'on attend de cette conférence, c'est les échanges de bonnes pratiques sur les stratégies d'émergence. D'autant plus que je viens d'un passé d'un document de stratégie et de réduction de la pauvreté classique à une croissance accélérée et dans laquelle nous mettons l'environnement comme un moteur de la croissance. Et surtout apprendre de certains pays qui sont déjà arrivés au niveau de l'émergence les meilleures pratiques.
Les objectifs pour atteindre l'émergence sont multiformes. C'est pourquoi les points de vue des dirigeants sont variés. Aboula Amandiaye, traité régional du PNUD pour l'Afrique, a énuméré deux contraintes à ne pas négliger.
D'abord, économies basées sur un secteur, le pétrole, le café, le cacao. Et quand il y a des retournements de conjoncture, l'économie s'effondre.